Vous êtes bien sur Radio Escapade et tout de suite, c'est Bruno pour Écriture dessinée.
Aujourd'hui, nous allons parler d'autobiographie. Avec Journal, Fabrice Nau a définitivement marqué l'écriture en bande dessinée et ce, à partir de la deuxième moitié des années 90. À la manière des journaux de grands écrivains, Fabrice Nau réalisa en images une œuvre autobiographique composée de 4 volumes, dont le tome 3 en est le point central. 20 ans après, avec « Les guerres immobiles », premier tome de ce second cycle, « Le dernier sergent », Fabrice Nau met en perspective la création de ce tome 3 et revient sur la France du tournant du millénaire, sur l'amour, la création, l'homophobie, une écriture dessinée autobiographique qu'il n'a jamais cessé. Fabrice Nau sera avec nous vers 14h15 pour partager son écriture frontale, sincère et sans concession de son existence et sur l'émancipation politique, tout cela lié à l'absolue précision du dessin. Eh bien, ça sera vers 14h15, nous serons avec Fabrice Nau. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Je voudrais donc centrer cette émission sur l'écriture autobiographique en bande dessinée. Et je vais commencer avec « Les fleurs ont aussi une saison ». La question de fond qui nourrit l'ensemble de ce roman graphique, de cette autobiographie dessinée, c'est comment représenter la mort, comment représenter la naissance. C'est à partir de sa vie que Cécile Poré, qui est dessinatrice, illustratrice, a donc choisi d'écrire cette partie de sa vie et elle est assistée par la romancière Camille Hansaume qui signe là donc son premier roman graphique à partir de cette matière narrative que constitue la vie de Cécile Poré. Alors le récit démarre tout de suite avec un ancrage sur ce qu'est la transmission. Cécile Poré, à ce moment-là, au début, est avec ses deux enfants et elle va leur parler de femmes, sa grand-mère, leur grand-mère, leur arrière-grand-mère, et va leur présenter qui étaient ces femmes. Et il y a également sa sœur qui fait partie aussi des personnes enterrées dans le cimetière où démarre cette histoire. Donc ce récit est sur ce moment de vie où en quelques mois, Cécile perd les 3 femmes de sa vie. Et quelle idée de mourir en hiver quand on aime les tulipes et au printemps quand on aime les passiflores. Et surtout, quelle idée de mourir en série alors que Cécile est enceinte. Les fleurs aussi ont une saison, c'est ça. Une histoire de deuil, mais aussi beaucoup de rire qui fuse au milieu des larmes. Il va donc y avoir, parallèlement à ces 3 décès bouleversants, l'arrivée du premier enfant de Cécile, et donc la mort et la naissance et la vie vont être très proches. Les fleurs aussi ont une saison et marquée par le choix graphique de Cécile Poré, qui est vraiment complètement impliquée dans son dessin, où elle a choisi une représentation très douce, avec un trait d'une grande finesse, autant pour représenter les différentes personnes de ce livre, où elles sont facilement mise en avant avec un effacement des décors qui fait que l'image, le cadrage va se centrer sur les personnages, les acteurs. C'est bien plus que des personnages, mais les intimes de Cécile Poré qui apparaissent et qui sont présents dans l'histoire. Il y a une volonté d'être vraiment dans les regards et une grande attention est portée par l'illustratrice sur la façon de représenter chaque regard pour lui donner son intensité. Alors c'est un dessin qui est plutôt réaliste où par exemple les yeux ont leur représentation habituelle, c'est-à-dire avec le blanc de l'œil, la pupille et puis les paupières, ce qui souvent est dans la bande dessinée simplifié mais tout aussi efficace mais avec une autre ambiance, les points noirs qui représentent les yeux. Il y a donc le choix pour Cécile Poré de donner de l'espace à chacune des cases. Il y a peu d'images par page, mais il y a une façon de mettre en scène qui apporte une très grande fluidité dans le récit et qui permet au lecteur de passer dans des ambiances très différentes avec à chaque fois cette façon de rencontrer et de participer à l'intimité de Cécile Poré. Les dialogues auxquels donc Camille Ansome a participé sont toujours dans cette justesse pour être à la fois dans les moments évoqués, choisis pour représenter ce moment intense de la vie de l'auteur où elle a donc perdu trois femmes de sa vie, sa grand-mère, sa mère et sa sœur, et puis donné naissance à sa fille aînée. C'est un très beau récit par à la fois l'intensité émotionnelle et par la qualité graphique qui reste toujours dans cette douceur et qui ne donne pas qui ne sombre jamais dans le spectaculaire et qui reste toujours dans cette dimension intime. C'est une grande qualité aussi bien dans l'écriture que dans le scénario, et c'est une écriture autobiographique de collaboration, ce qui n'est pas toujours très fréquent, mais qui en tout cas ici touche pleinement, touche juste, et c'est une très belle autobiographie dessinée. Les fleurs ont aussi une saison de Camille Ansome pour la partie scénario et de Cécile Poré pour la partie dessin et scénario. Et les 240 pages de ce récit sont au prix de 28 euros et le livre a été imprimé en Belgique. Et on va retrouver Gustave Malheur. Fabrice Naud a bouleversé l'écriture dessinée avec son imposante œuvre autobiographique « Journal », composée de 4 tomes couvrant les années 92 à 96. 20 ans après, Fabrice Naud poursuit son autobiographie avec un nouveau cycle. « Le dernier sergent », dont le tome 1, « Les guerres immobiles », revient sur cette période de la création du journal tome 3, qui avait déclenché alors de violentes réactions sur Internet. Ce premier tome couvre la période d'avril 1998 à avril 2000. L'auteur questionne le comportement du narrateur qui se plaint toujours, chouine, pleurniche et retombe amoureux. Dans Les guerres immobiles, il lui oppose ses rencontres avec artistes, intellectuels, qui structurent son émancipation politique. Les pages sur sa rencontre avec l'écrivain Guillaume Dustan sont remarquables. Page 217, je cite. « C'est quoi le problème? C'est que tu es sorti des clous, voilà. Publier une histoire ou mater un cum dans la rue, c'est pareil. Ça a rapport avec l'espace public. » Fabrice Naud marque cette étape de son émancipation politique à l'œuvre tout au long de ce tome 1. Se révèle le poids de l'hétéronormativité dans notre société, de la lutte contre l'homophobie qui passe d'abord par son effacement dans l'espace public. Une nouvelle fois, l'écriture autobiographique n'a pas d'équivalent. Le dessin lui apporte l'absolue précision du trait. Chaque image, chaque page et double page est pensée, dessinée avec une finesse constante. Récit, texte et dessin, dans leur intensité, imposent chaque mot, chaque trait comme un choix. Une écriture dessinée comme une évidence. Nous sommes avec Fabrice Naud pour dialoguer avec lui sur son écriture dessinée autobiographique. Bonjour Fabrice Naud.
Bonjour Bruno Canard.
Alors, il y a eu en 2017 l'arrêt de la maison d'édition Ego Comics, le journal est réédité par les éditions Delcourt, et puis sort donc maintenant ce nouveau cycle, Le Dernier Sergent. Comment se passe cette écriture autobiographique? Là, nous sommes sur une période qui a donc plus de 20 ans, qui couvre 1998-2000. Comment se passe cette écriture autobiographique, Fabrice Naud?
Avec David Chauvel, donc, qui est mon essentiel interlocuteur chez Delcourt. Et c'est vraiment celui qui est venu me chercher. En fait, je lui ai dit très vite, il faut que tu viennes à la maison pour voir ce qui peut être publié, ce qui peut suivre le journal, parce qu'il y a tellement de choses. J'en parle d'ailleurs dans la postface rééditée du tome 1 et 2 du journal chez Delcourt. Je fais une petite postface de 12 ou 14 pages, je sais plus, en bande dessinée, où j'explique pourquoi 20 ans d'absence, justement, pourquoi 20 ans d'absence éditoriale. Donc, je vais pas refaire tout le topo ici, ça serait trop long, mais on va résumer ça par un mot très simple, c'est la vie, tout simplement. En lui montrant la totalité des pages que j'avais déjà réalisées, parce que moi je n'ai pas arrêté de dessiner pendant ce temps-là, c'est seulement ma présence éditoriale qui a disparu pendant 18-19 ans à peu près, depuis 2002, puisque le dernier tome du journal, tome 4, a été publié en janvier 2002. Je lui montre tout ce que j'avais fait, donc à peu près 800 pages de scènes diverses et variées, et on s'arrête sur un récit en particulier qui commençait à bien mûrir dans mon esprit, qui deviendra Le Dernier Sergent. Le Dernier Sergent, le fil rouge, c'est comme son titre l'indique, c'est un jeune homme à l'époque qui s'appelle Antoine, qui était sergent, donc militaire du rang, dont le narrateur, donc moi, tombe amoureux autour de mai 98, et c'est une histoire qui va se dérouler jusqu'en 2002. Donc les 4 tomes annoncés du Dernier Sergent, le premier Les Guerres Immobiles, il y a 4 tomes donc retrace cette histoire de 1998 à 2002 environ. L'histoire personnelle se poursuit après, hein, mais je l'arrête à peu près autour de ce moment-là. Donc le 4e tome sera autour des années 2002 et au moment d'ailleurs de l'écriture et le dessin du tome 4 du journal. Parce que le tome 4 du journal, publié en 2002, retrace la période 95-96, et j'étais en train de la dessiner autour des années 2000-2002, justement.
Qu'est-ce qui change dans l'écriture, le fait qu'il y ait ce décalage, même s'il y a des matériaux existants, pour au moment de le reprendre, comment c'est fait est-ce qu'il y a eu de la réécriture? Est-ce qu'il y a eu une mise à niveau graphique?
Alors oui, il y a une mise à niveau graphique parce que dans la série des scènes, des pages éparses que j'avais montrées à David Chauvel, la plus construite, c'était cet arc narratif du dernier sergent, et il y avait des scènes déjà dessinées, donc dessinées assez tôt sur le motif, sans doute autour de 2004, quelque chose comme ça, et notamment toutes les scènes du dernier sergent avec la présence du dernier sergent, donc d'Antoine, toutes les scènes de rencontre avec lui, toutes les scènes où il est là face caméra, sont faites sur des photographies qui ont été prises en 2002, et je pense avoir réalisé les scènes en question assez tôt, donc pas 2002, mais 2004, quelque chose comme ça. Donc forcément, entre-temps, de 2004 à aujourd'hui, donc on va dire autour de 2020, qui est le début réel du dessin de ce tome, où je me mets vraiment à mon bureau pour travailler sur ce tome après décision de republication du journal et de sa poursuite par Delcourt. Donc on a là 16 ans donc de différence, 16-17 ans. Il y a quand même j'espère évoluer graphiquement, j'espère en mieux, et donc forcément, quand j'ai revu ces scènes-là, dont j'avais pas trop à rougir malgré tout, il fallait quand même que je corrige un peu. Donc pour faire simple, il y avait trois scènes dessinées avec Antoine, enfin la présence d'Antoine. Il y a à peu près tout le début du livre également qui est dessiné jusqu'à la page 70, hormis les 20 premières qui sont récentes. Mais on va dire il y a une soixantaine de pages à partir de la page 20, à partir de la page titre en fait, la grande page titre où on voit son portrait avec le titre, le dernier sergent. Évidemment, à la radio, c'est pas très très visuel, mais de la page 20 à la page 73, 75, elles étaient déjà dessinées. J'ai très peu retouché, j'ai assez peu retouché ces pages-là. En revanche, les pages de rencontre avec Antoine ont été pas mal retouchées, notamment une scène complète, celle qui porte le titre même du livre, la scène Le Dernier Sergent, une scène qui se passe dans un bar gay comme ça, où lui et moi, on va dans ce bar avec un ami à lui, puis on discute et on plaisante et on a cette espèce de dialogue très 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 LGBT de l'époque. On est vraiment dans une ambiance un peu Ralph Koenig, presque un petit peu de comédie là à ce moment-là. Cette scène elle était déjà dessinée, mais vraiment j'avais beaucoup de mal. Je l'ai redessinée intégralement. Mais sinon, ça a été des retouches, des corrections, des retouches graphiques. Donc on va dire il y avait une centaine, 100, 110 pages déjà de réalisées, dont une trentaine que j'ai redessinées intégralement, et ensuite 300 pages nouvelles qui arrive derrière. Mais ces pages nouvelles, forcément, elles reprennent des choses que j'avais notées dans des carnets, des choses que j'avais écrites, des choses que j'avais déjà dessinées. Je redessine toujours. Il n'y a pas de photocopie, par exemple, de croquis qui aurait été fait à l'époque. Parfois, je peux redessiner assez précisément un croquis, mais une simple photocopie, je trouve ça, bon, je préfère redessiner, je préfère réhabiter le dessin en redessinant. Mais je dessine au jour où je dessine. C'est-à-dire, quand je commence à entamer c'est la poursuite de cet arc narratif sur le dernier sergent, je suis sur ma page de dessin, elle est blanche. Hein. Après, j'ai 1000 notes diverses et variées, des photos en veux-tu en voilà, de tous les côtés. Ce que je dis dans la postface du tome 1 et 2, hein, où je représente sur une grande case tous les carnets que j'ai dessinés depuis une quinzaine d'années, qui doit représenter une quarantaine de carnets de divers formats qui vont de 80 pages à 200 pages parfois. Donc il y a de la matière, il y a de la matière. C'est un travail de montage, c'est un travail de rush, un peu comme au cinéma, de remontage, mais essentiellement de redessin. C'est-à-dire, comme je suis sur ma page, elle est blanche. Après, ben forcément, dans ma tête, la structure est complètement là. Je storyboard très peu, voire pas du tout. Je storyboard parfois de petites courtes séquences parce que j'ai besoin de les éclaircir dans ma tête, mais sinon, je suis de nouveau quasiment brut devant ma page et je vais au fil de la page, mais avec chargé de toutes les notes que j'ai de tous mes carnets.
Fabrice, nous, alors, vous parlez de ce matériau très abondant. Comment se fait votre choix entre ce qui va être dit, ce qui va être montré et ce qui ne le sera pas? Vous avez évoqué tout à l'heure cette ville dont on n'a pas le nom et qui restera anonyme. Et au niveau des notes que vous avez prises, comment se fait votre choix de garder et de mettre de côté?
Ça, là, c'est très compliqué de répondre à une question comme ça, parce qu'effectivement, le lecteur ne voit que ce qu'il voit, c'est-à-dire on est dans ce qu'on appelle le biais du survivant. Donc la plupart du temps, les articles qui sont faits disent il nous dit tout, il est sans concession, etc. Mais en fait, je ne suis que concession. Le travail de tout auteur, de tout artiste, c'est un travail de retrait, c'est un travail de discrimination, de séparation, de deuil, très douloureux des fois. Donc comment se fait le choix? Là, c'est impossible de répondre à cette question d'un point de vue alchimique. Comment il se fait? Je peux juste répondre de manière technique, c'est-à-dire j'élague énormément. Mais après, moi, je suis quelqu'un plutôt qui est dans l'augmentation, plus que dans l'élagation. Mais je suis surtout dans la création. C'est-à-dire, quand je suis face à mes pages, j'ai toutes les notes en tête, j'ai une idée très précise de l'arc narratif global sur les 4 tomes. Là, sur le tome des Guerres immobiles, j'avais une idée très précise, je savais comment ça commençait, donc les premières pages sur la rencontre, en fait, avec le dernier sergent. Je savais comment elle se terminait, c'est-à-dire sur l'annonce de la grande soirée annoncée à la fin du tome 1 prévue et qui se passera à La Rochelle. Là, cette ville de La Rochelle sera nommée. Et ça va faire l'essentiel du tome 2 du dernier sergent, c'est une seule soirée, en fait. Ça courra à peu près sur 200 pages, quelque chose comme ça, 200-220 pages. Entre les deux, je sais que j'ai la chronologie de mon histoire, c'est-à-dire de mon histoire vécue. Donc notamment le deuil de ma sœur et de mon père à 3 jours d'intervalle dans les années au moment de la Coupe du monde de football de 1998. J'ai ces choses-là. Je sais que je vais parler par exemple du VIH qui intervient dans ma vie. Je suis séronégatif, mais le VIH a eu une importance capitale dans la vie des gays, surtout à cette période de la fin des années 90 où c'était la grande décimation tout de même. Je sais que je vais parler des rencontres parce qu'on est sur une période justement de création du tome 3 du journal, donc d'une reconnaissance par les pairs, d'un certain succès d'estime, on va dire, du travail. Donc il y a énormément, il y a beaucoup d'invitations en librairie, en festival, ce genre de choses. Donc je sais que je vais parler, je veux parler de certains festivals. Il y a notamment une scène avec le festival de Rome qui à elle-même peut faire un petit livre, je pense, qui est assez parlante. Donc ça fait déjà un certain nombre d'éléments. Je sais que je dois placer ces éléments sur ce grand échiquier et que c'est traversé par le fil rouge de cette rencontre avec Antoine. Et je sais également, avant de commencer, que cet Antoine, ce dernier sergent, sera rencontré seulement autour d'octobre 99, alors que le livre commence en avril 98 ou en mai 98, quelque chose comme ça, et qu'en fait, je vais prendre mon courage à deux mains et lui parler seulement 1 an et demi après. Donc je sais que dans le livre, il va arriver très tard, un petit peu comme chez Molière, ce personnage qui arrive au quatrième acte. Et je place en amont tout, je sais que je dois placer en amont toute cette histoire sur ma famille, un petit peu. Je commence à parler de ma famille, chose dont je n'ai pas parlé dans le journal, du VIH, comment il intervient dans ma vie, de qu'est-ce qu'un lieu de drague, qu'est-ce qu'un lieu de rencontre entre hommes dans une petite ville de province à ce moment-là, sachant qu'on a, ping, au départ, une espèce de grand accord dissonant ou majeur, comme on veut, de ce grand dessin du portrait d'Antoine. Comme ça, le lecteur, immédiatement, il a son visage. Et je sais que je vais le faire intervenir 200 pages après. Enfin, en tout cas, 100, 150, 200 pages après. Donc là, on a une structure assez nette, mais bon, n'importe quel auteur storyboarderait tout ça de manière très précise. Moi, je ne peux pas faire ça. Donc après, je réalise des scènes. Donc, soit il y a des scènes déjà réalisées, soit il y a des scènes que je vais réaliser, que je sais que je vais devoir réaliser, notamment la scène de Rome, qui est la première scène en fait que j'ai dessinée. Je pensais qu'elle ferait 25 pages, finalement, elle en fait une quarantaine. Donc, vous voyez, ça se fait comme ça en augmentation, en ajout, et ensuite, c'est un montage. C'est une espèce de montage.
Il y a une autre chaîne narrative qui est celle de cette émancipation politique, cette mise en perspective de l'homophobie, de notre société hétéronormée. Est-ce que ça a permis quelques modifications sur le texte, d'être plus précis et conscient de cette évolution politique et de ce regard sur à la fois ce que vous avez vécu et sur notre société.
Forcément, il y a sans doute un recul, sans doute un mûrissement. Je veux bien le croire, mais moi, au moment où je suis face à mes pages, je suis toujours vierge face à mes pages. Après, je suis chargé, encore une fois, de toutes ces notes. Alors, qu'est-ce qui a changé? Bah, encore une fois, comme je suis, la page est blanche, rien ne change, parce que c'est au moment du processus de création que la chose se fait. Mais Je change assez peu d'avis, généralement, sur les choses, les êtres. C'est une lente évolution, mais je change assez peu d'avis, c'est-à-dire ce que je dis dans le livre aujourd'hui, je le pensais déjà à l'époque, peut-être sans pouvoir le formuler de manière aussi précise. Donc c'est peut-être ça qui est le gain de cette émancipation, ce genre de choses. Mais la période que je raconte est justement un peu la période de bouleversement interne, et en même temps, il y a un bouleversement social à ce moment-là. Je vous dis le VIH qui est la grande décimation, cette espèce de émulation autour de la bande dessinée alternative avec des gens de l'association, de la naissance de Frigo Box, Frémok à l'époque, ce genre de publication. On est dans une espèce de grouillement très très intense. Et en plus, comme il y a un début de reconnaissance de mon travail, je rencontre tout un tas de gens. Alors déjà des gens de ma profession, des auteurs dont je parle dans le livre, hein, qui sont des amis et qui sont devenus des amis, qui sont toujours des amis. C'est dans Le Dernier Sergent, je les mets de manière un petit peu plus précise. En même temps, il y a une sorte de deuil, hein, dans cette histoire, parce qu'ils partent de la ville qui n'est pas nommée, ils partent quasiment tous, et moi je reste. Et je fais une scène qui se passe au Nouvel An 98-99, d'ailleurs, qui se passe chez Richard Marazzano, chez sa mère, chez ses parents de l'époque, autour de Paris. Où il y a une espèce de portrait comme ça, espèce de référence assez proustienne que je cite assez régulièrement. On est un peu au déjeuner des guermantes, hein, on est autant retrouvé un peu dans cet ordre-là. Donc il y a une espèce de portrait un petit peu social aussi, et d'une époque et d'un milieu. Il y a un portrait de société, il y a le portrait d'un milieu. Le milieu de la bande dessinée, puis le milieu du livre un petit peu, par exemple avec Guillaume Dustan, ce genre de personnage. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, si ce n'est autant que mes petites souffrances de jeune Werther.
Dans les guerres immobiles, vous parlez de votre famille. Qu'est-ce que ça a permis d'avoir pu parler comme ça de votre famille, de votre mère, de votre père, de votre beau-père, de votre sœur? Il y a
Ben,
un
mon
très
père, pas
peu.
grand-chose, parce que mon père, je ne l'ai jamais connu. J'ai juste appris son décès, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça m'a permis? Rien ne m'a été permis. Je m'autorise tout seul. Hein.
Oui.
C'est ce qu'on m'a beaucoup reproché, d'ailleurs. Mais en m'autorisant tout seul, je fais attention à un certain nombre de choses, quand même. Je ne dis pas n'importe quoi et n'importe comment. Il y aura toujours des mécontents. Dans votre question, s'il y a la question, est-ce que par exemple ma famille n'est pas du tout au courant de ce que je fais? Enfin, ils savent que je fais des livres, ils s'y intéressent pas plus que ça, et je ne leur donne pas. Ça se ressent, je pense, dans le récit. Il y a assez peu d'attache à cette famille, il y a même plutôt une grande colère. La question, comme dirait l'autre, est vite répondue, c'est-à-dire je me pose pas de la question de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils. Je sais qu'a priori ils me lisent pas, ils m'ont jamais lu, après, pour l'instant, je suis assez discret, encore sur la famille. Enfin, il y a des choses importantes, cette histoire de décès, cette histoire d'église, d'enterrement. Il se passe des choses. Je dis un certain nombre de choses. J'espère, par exemple, pouvoir un jour faire un livre sur mon adolescence. Pour l'instant, je peux pas trop me le permettre, mais je commence, on va dire, à parler de la famille, qui était totalement absente du journal. Sauf dans le tome 4 où j'aborde le décès annoncé de ma grand-mère. Ce sont des pages quand même pas négligeables. Il n'y en a que 3 ou 4, mais je suis pas mécontent de ces pages-là. Je commence à aborder la famille. Il y a deux choses que j'avais pas abordées dans le journal et qui sont abordées dans l'année sergent, c'est la famille et le VIH, par exemple. Le VIH est également totalement absent, occulté du journal, pour des raisons compliquées à expliciter, mais en tant que personne séronégative, en pleine période de pandémie et de décimation, il me paraissait difficilement légitime de prendre la parole. Même si j'étais complètement traumatisé par le virus et la peur de le contracter, ce dont je parle dans le dernier sergent. À l'époque, je me sentais pas de parler de ça. Ça aurait occulté tout le reste, en fait. Ça devenait une espèce de kit identitaire. Dès qu'on est gay, il faut parler du VIH. Moi, à l'époque, volontairement, je l'ai écarté du récit, alors qu'il est là en creux, finalement. Et en lisant le dernier sergent, on relit en creux que le VIH est là tout le temps, comme une espèce de serpent de mer ou d'éléphant dans un magasin de porcelaine qui casse tout, qui plombe tout, quoi.
Fabrice Nau, je vous propose une pause musicale avec le deuxième choix de votre programmation. C'est la marche funèbre de la 5e symphonie de Mahler. Et on se retrouve après pour parler dessin.
Très bien.
À tout de suite. Vous êtes sur Radio Escapade, nous sommes dans l'écriture dessinée en direct avec Fabrice Nau. Alors, nous venons d'écouter Mahler dans Le Dernier Sergent, dans Les Guerres Invisibles. Il y a de nombreuses références à la musique, et notamment à celle de Mahler. Est-ce que vous pouvez nous évoquer ce lien avec la musique, et notamment celle de Mahler?
Ce qu'on ne sait pas, ce que je ne dis pas, parce que c'est très, ça n'a pas énormément d'intérêt, c'est que la quasi-totalité de mon travail autobiographique est structurée plus ou moins, enfin j'ai toujours en arrière-plan les symphonies de Mahler, et les quatre premiers tomes du journal sont quasiment, font une sorte d'appel, mais il n'y a que moi pour le savoir, aux quatre premières symphonies de Mahler, et en fait Le Dernier Sergent, premier tome, c'est la cinquième symphonie. Je me suis dit que j'allais rendre ce lien un petit peu plus évident, et de fait il y a énormément de titres de chapitres qui sont en allemand et qui sont en fait les dénominations des mouvements de la cinquième symphonie de Mahler. Alors évidemment il ne faut pas y chercher une espèce de relation stricte extrêmement rigoureuse, c'est pas vraiment le cas, mais chez moi il y a une espèce de résonance, et de fait il y a ce fameux adagietto très connu qui est utilisé par Visconti dans Mort à Venise, mais comme je fais beaucoup référence, puisque ce livre est marqué par pas mal de deuils, notamment celui de ma sœur et celui de mon père, à 3 jours d'intervalle du cancer, tous les deux en 98, à peu près au moment de la Coupe du Monde de football de l'époque. La marche funèbre de la première, du premier mouvement de la cinquième symphonie, c'était assez évident, et j'y fais une référence explicite plusieurs fois. Il y a des titres qui sont Trauermarsch, qui sont la traduction finalement allemande de marche funèbre. Voilà.
Dans le dessin de ce tome 1, du Dernier Sergent, il y a une précision beaucoup plus affirmée, beaucoup plus intense que dans les quatre premiers tomes du journal. Le tome 4 avait déjà cette ouverture, mais il y a vraiment une façon de, pour chaque case, de pousser l'écriture graphique très loin, qui peut même aller, par exemple, le portrait de votre sœur, d'un soin vraiment remarquable. Et comment s'est fait ce choix, Fabrice Nau, d'appuyer ainsi cette précision graphique qui est parfaitement en résonance avec la précision de l'écriture et sa perfection aussi?
Là, c'est pas vraiment à moi d'en juger. Déjà, une réponse simple, c'est de dire qu'il y a 20 ans se sont écoulés depuis la fin du tome 4 du journal, sa réalisation et les guerres immobiles. Entre-temps, je n'ai quand même pas chômé. J'ai fait deux incursions dans la science-fiction. J'ai fait tout un tas de choses. Donc, je pense que j'ai mûri, tout simplement, au niveau du dessin. Après, j'ai pas l'impression d'avoir tellement changé de dessin, en tout cas, certainement pas de style. Je pense que la précision, elle est déjà dès le tome 1 du journal sur les portraits de Stéphane, qui sont assez... assez précis. Je pense que la seule chose à laquelle moi je peux répondre aujourd'hui, c'est que les problèmes que je me connaissais autrefois en dessin, qui étaient notamment un problème de silhouettage, on va dire. C'est-à-dire les petites figures dans les cases, quand on a un style... J'aime pas dire réaliste parce que ça n'a pas de sens en bande dessinée, mais bon, on est bien obligé par défaut d'utiliser ce terme. Donc quand on a ce style qui est le mien... quand on doit réduire une figure à quelques millimètres dans une case, sur un original, c'est assez compliqué. Fatalement, ça se passe dans l'épaisseur du trait, de la plume, mais on arrive forcément à des figures un peu très caricaturales. Plus je réduisais les silhouettes dans les cases, plus j'avais de difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai déjà résolu en partie ce problème-là, ce qui fait que le problème d'échelle d'échelle des figures dans le dessin, je pense, est en partie résolue par rapport à ça. Ensuite, dessiner un parc la nuit, en plein hiver, donc éclairé par des réverbères, à l'intérieur des branches dénudées de leurs feuilles, à la plume, c'est quand même une certaine gageure. Et je ne l'ai pas trop fait jusque-là, parce que c'était quand même un peu compliqué. Aujourd'hui, je pense que j'en suis capable, un peu plus capable, et comme le tome, c'est aussi un portrait de ce parc. Je pense qu'il n'y a pas que le portrait des gens, il y a aussi presque des portraits de paysages, j'espère. Il y a énormément de paysages. Il y en a beaucoup dans le tome 4 aussi. Mais on n'est pas dans la montagne, on n'est pas à l'extérieur de la ville qui n'est pas nommée. On est dans ce parc et j'en fais un relevé presque exhaustif des balades de chaque pas, ce qui rejoint l'idée du Winterreise de Schubert, notamment le voyageur solitaire, qui est quelque chose qui revient très, très fort chez moi. Moi, je me définis comme un maximaliste, en fait, opposé de minimaliste. J'essaye de faire flèche de tout bois. J'essaye de dessiner tout ce que je veux, comme je veux. Et parfois, il n'y a pas une égalité, forcément, de stylistique. Il y a, j'espère, une grande homogénéité. Mais oui, je suis plus... Je sais pas si je suis plus précis, je pense pas être plus précis, mais j'ai mûri et je pense que j'ai résolu des problèmes de dessin que je n'avais pas réussi à résoudre avant, tout simplement. Après, il y a collecteur de la qualité.
Fabrice Nau, vous avez évoqué tout à l'heure ce côté maximaliste et d'une grande diversité de situations graphiques. Ces nouvelles formes d'écriture qui sont à l'œuvre et par rapport au dessin, il y a quand même moins de recours à des cases où il y a le fond blanc. Quand il y a cette représentation du vide est très intense, mais il y a aussi, il me semble, beaucoup plus de cases où le fond est travaillé avec les hachures, avec une précision encore plus affirmée.
Est-ce que... Alors, oui, il y a de ça, mais ça tient à ce que je disais à l'instant sur ce portrait du parc. Je pense qu'on pourrait faire une analyse presque technique du nombre de traits. Il y a beaucoup de scènes de nuit dans ce parc en hiver avec ces arbres dénudés éclairés par des réverbères et je me suis donné la charge de représenter ça, c'est-à-dire de pas l'évacuer justement avec soit du blanc, soit juste un aplat de noir, mais vraiment à essayer de dessiner les branches et l'éclairage urbain à travers les... Parce que ça se passe essentiellement en hiver, cette rencontre avec le dernier sergent. Le narrateur met un an et demi à aller vers lui, donc il y a quand même un, deux étés qui passent. Mais le moment de la rencontre, ça se passe fin octobre 99, et ça va courir jusqu'à l'annonce du deuxième tome sur cette journée du 1er avril 2000 qui est annoncée et qui sera l'essentiel du deuxième tome, qui court au début du printemps 2000. Avec entre les deux la fameuse tempête les deux fameuses tempêtes de 99 qui ont un rôle important dans le livre, qui sont à la fois sont traitées de manière telle qu'elles sont apparues dans les informations, c'est-à-dire le drame que ça a été pour les Français à l'époque, puis en plus la région de là où habitait ma mère, c'est-à-dire vers La Rochelle, a été particulièrement touchée par la deuxième tempête. Je raconte ça et en plus évidemment ça a un rôle métaphorique dans l'histoire avec les arbres qui se cassent et ça va se rejoindre dans les tomes suivants d'ailleurs. Un arbre qui est là, qui la fois suivante va être brisé. Il y a la métaphore de l'arbre chez moi qui est très forte. Elle est dans le tome 3 avec l'arbre généalogique qui est repris métaphoriquement avec des arbres tout court. Et donc l'idée d'un arbre chêne centenaire touffu opposé à un arbre chétif et dénudé, ça revient assez régulièrement chez moi. Donc là, la réalité m'avait rattrapé d'une certaine manière. La réalité elle-même me proposait ces métaphores avec cette tempête qui a balayé l'essentiel du parc de drague de la ville qui n'est pas nommée, où c'était quand même assez touffu. Il y a une partie du parc qui était vraiment presque un bois presque sauvage et qui a été juste avant la tempête. La municipalité avait choisi d'ailleurs d'élaguer pas mal et de couper des arbres. Erreur, 2 mois, 3 mois après, la tempête est arrivée et a terminé d'achever tous les arbres qu'il y avait. Donc la partie touffue du parc a été presque anéantie par la tempête. Donc pour revenir à cette histoire de dessin, voilà, il y a beaucoup de pages quand même qui représentent le parc de nuit, en hiver, donc avec cet éclairage à travers les branches. Et je me suis chargé d'essayer de rendre ça et de représenter ça. Et pour en faire, pour en donner une dimension, j'espère, poétique, c'est-à-dire énormément d'homosexuels, par exemple, surtout aujourd'hui, et des jeunes générations, considèrent les lieux publics de drague, c'est-à-dire les parcs, les friches industrielles, qui fait partie intégrante de la culture gay de la drague sont considérées comme des choses à l'ancienne et des choses glauques dans lesquelles on ne va pas, on ne va plus, qui sont les lieux de l'agression, qui sont les lieux de la maladie, qui sont les lieux de la déréliction la plus totale. Alors bon, il est clair que dans mon travail, je raconte pas une immense joie de vivre, mais je pense que j'essaie de peindre le lieu de drague aussi comme un lieu de poésie, où les rencontres peuvent être belles et il peut se passer de belles choses, et au moins, même s'il ne se passe rien, il y a la beauté de la nuit et des arbres. Donc, je pense que ça peut tenir aussi à ça, ce dessin qui a beaucoup de, qui peut être plus fouillé, parce que j'ai essayé de représenter les scènes avec Antoine vers la fin où il est vraiment sur l'esplanade avec tous les arbres, les troncs, les branches derrière. J'essaie de le faire et je me contente pas de lui foutre un aplat noir derrière parce que voilà, c'est plus lisible et c'est plus simple et c'est de la BD, quoi. Donc régulièrement, j'essaie quand même de mettre in situ les personnages dans leur lieu. Et de traiter de la même manière, avec j'espère, le même soin et le même respect, les visages et les objets et les lieux. Voilà.
Fabrice Snow, quel dessinateur êtes-vous? Comment êtes-vous sur votre table à dessin? Comment ça se passe?
Je suis exactement comme je suis face à vous. Alors évidemment, là, comme on est à la radio, ça ne se voit pas, mais nous, disons-le aux auditeurs, on est en visio actuellement avec Bruno Canard. Je suis exactement placé au même endroit, c'est-à-dire je travaille sur mon canapé. Je suis grand, je suis maigre, mince. Enfin, j'ai pris un peu de poids par rapport à la vision de phasme souffreteux que je décris dans ce livre, qui a été aussi une grande souffrance, surtout quand même la famille dit que vous avez un physique de déporté et que la plupart des amants que vous rencontrez dans les parcs, face à votre visage maigre, comme vous mettez des préservatifs pour tout, vous sont persuadés que vous êtes atteint du VIH et en phase terminale. Donc ça donne pas une grande confiance en soi. Il y a pas mal de gens qui disent mais tu te détestes, etc. Je dis mais oui, il y a des raisons en même temps. Hein, quand l'essentiel de la société vous renvoie à une tête de cancéreux mourant. Bon, bref, ce qui n'est pas le cas. Je suis en pleine forme et je suis séronégatif au demeurant. Et on peut vivre aujourd'hui séropositif relativement de manière plus confortable qu'avant, parce que ça traverse également le livre, ces années VIH, avec la figure de Dustan et autres. Mais je travaille sur mon canapé. Je ne peux pas travailler sur une table à dessin, je ne peux pas travailler sur un bureau, ça me fait mal au dos. La seule solution que j'ai trouvée, c'est les fauteuils célèbres d'IKEA ou le canapé. Et je travaille face à mes écrans allumés de tous les côtés avec la télévision, Internet et compagnie. Et je travaille en fait sur mes genoux. C'est-à-dire, j'ai mes formats originaux font un format A3. Je pose mes pages sur mes genoux et je dessine comme ça. Et j'ai dessiné tout Labyrinthus comme ça et j'ai dessiné tout le dernier sergent comme ça. Voilà. Donc ça fait 10 ans, à peu près 12 ans que je travaille sur un fauteuil. Et après, c'est le bordel autour de moi, évidemment, avec des pages, mon encre, ma plume, ma documentation, qui est étalée partout.
Merci beaucoup, Fabrice Snow. J'ai rappelé les caractéristiques de votre livre. Donc, Le Dernier Sergent, nouveau cycle après le journal, le tome 1, Les Guerres Immobiles, donc, sont parus aux éditions Delcourt. Les 424 pages de ce livre sont au prix de 35 €. Et c'est un beau livre.
Merci beaucoup.
Très bonne continuation. Et puis, on sera au rendez-vous des tomes suivants. Thank you.
Pour finir, je voudrais terminer avec un autre récit autobiographique, c'est celui de Charles Berberian, Une éducation orientale. Charles Berberian a œuvré notamment avec Philippe Dupuis, ils ont fait le journal d'Henriette, Monsieur Jean, Boboland, mais ils avaient déjà ensemble fait un journal autobiographique, c'était le journal d'un album où ils racontaient leur quotidien d'auteur. Charles Berberian revient sur l'écriture autobiographique, mais pour raconter sa jeunesse au Liban. Il y est arrivé à 9 ans, il y est resté 6 ans, donc à une période où chacun se construit et affirme ses repères. Charles Berberian est revenu au Liban à plusieurs reprises, à la fin des années 2010 et au début des années 20. Et donc, il va raconter cette relation qu'il a avec le Liban à travers donc une éducation orientale. C'est vraiment un livre de dessin, mais d'une écriture dessinée sur la mémoire, mais aussi sur le regard porté aujourd'hui par Charles Berberian sur le Liban, nourri de cette mémoire et de ces années, ces 6 années passées au Liban. Il y a parallèlement à ces mouvements de la mémoire, les mouvements du trait. Charles Berberian va convoquer différents styles graphiques, mais on est vraiment au-delà du style, on est dans une écriture et il va faire varier son écriture en fonction des situations, en fonction de ce qu'il représente, s'il se représente enfant avec son frère Alain et leur grand-mère Yaya, avec les moments où lui est adulte et de retour à Beyrouth, par exemple. C'est à chaque fois, le trait va être dans une mobilité pour être au plus près des émotions, des sentiments, des souvenirs et comment tout cela va s'imbriquer. Charles Berberian, dans différents carnets de voyage, avait représenté la ville et, par exemple, ses récits en bande dessinée. On a de très nombreux intérieurs, des plaisirs manifestes à représenter la ville. Et là, par exemple, Beyrouth a différents moments de la vie et il y a le même plaisir à camper une rue, une atmosphère de rue, une ville dans toute sa dimension. Comment nous, piétons dans la ville, ressentons à la fois son ambiance sonore, à la fois ses lumières, à la fois le caractère imposant des immeubles. Comment la ville va être transformée et comment le dessin va pouvoir nous représenter et comment Charles Berberian se représente avec le dessin dans cette ville qu'il semble avoir intimement connu et qu'il a intimement connu, ça c'est manifeste. La grande réussite de cette éducation orientale, c'est vraiment cette façon de mêler les dessins, une sorte de mobilité graphique où il n'y a pas de dessin attitré à tel ou tel type de scène, mais il y a vraiment un dessin qui va avoir une très grande liberté et qui va pouvoir, selon les moments, mêler ces différents styles. On a, par exemple, aussi le dessin de la ville qui va se faire sur le plan même de Beyrouth, à la manière, par exemple, d'Alechinski, et ça fonctionne parfaitement. Il y a aussi la façon de représenter la famille. Alain, son frère aîné, est donc réalisateur et cinéaste. Il y a deux pages sur la cité de la peur et c'est un grand, aussi un grand moment de ce livre. À chaque fois, Yaya, la grand-mère, a un rôle très important et on va donc suivre le Charles enfant et dans cette relation avec sa grand-mère et son expression Kouklamou, qui veut dire ma poupée à moi, et la très grande tendresse qu'elle témoigne à ses petits-enfants. C'est un très grand plaisir de lecture parce que Charles Berberian affirme cette puissance de la bande dessinée dans sa représentation au trait. Comme le disait Fabricno, parler de réalisme est plutôt superflu dans la mesure où la simple représentation, le trait de contour, même stylisé, même une sorte de synthèse de ce que on a aussi bien Charles Berberian enfant que Charles Berberian adulte qui revient dans la ville de son enfance et de son adolescence, eh bien, on est pleinement avec eux. C'est cette très grande force de la bande dessinée de ne pas avoir besoin du réalisme pour que l'on croie à la scène. Le trait, le dessin affirme chacun de ces moments de cette histoire. C'est un immense plaisir parce que on est proche d'un auteur qui a déjà une œuvre qui a beaucoup apporté, qui a notamment permis d'avoir de très belles émotions. Et là, on a cette intimité, ce partage d'une histoire et cette façon de regarder Beyrouth avec la période de jeunesse de Charles Berberian et puis la période actuelle qui va juste après l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et puis aussi le confinement qui, chez nous, a été très important dans l'abstinence et la solitude qu'il a imposée. Charles Berberian, une éducation orientale, un très grand récit autobiographique. Il fait 136 pages, il est au prix de 25 €. C'est publié par les éditions Casterman. C'est le premier livre de Charles Berberian chez Casterman. Et le livre a été imprimé en France. Nous serons la semaine prochaine, certainement avec Alfred. Il reste peut-être une petite marge d'incertitude. Bonne semaine à tous.
Écriture dessinée.